J'ai le plaisir d'être avec Nicolas, Nicolas d'Andrémont. Est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour.
Tu nous entends? Bonjour. Bah, comment ça va déjà?
Eh bien, tout va bien avec ce beau temps et les oiseaux qui chantent dehors, c'est assez chouette.
Oui, ça fait du bien au moral, c'est sûr. Alors, on avait eu le plaisir de te recevoir d'une émission sur la distribution de GNU Linux hein, le 30 avril 2019. On mettra le lien sur la page de l'April pour nous parler de Debian, hein, puisque tu es très engagé dans la communauté de cette distribution libre. Tu as même été président de Debian France, si je me trompe. Mais est-ce que pour nos auditeurs auditrices qui n'auront pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît?
Oui, donc Nicolas d'Andrimont, je suis développeur de logiciels libres depuis longtemps maintenant, je sais pas, ça doit faire 12 ans à peu près. Je suis pas mal actif effectivement dans Debian et je travaille en tant qu'ingénieur dans le projet Software Heritage, qui est un projet d'archivage de tout le patrimoine logiciel de l'humanité.
Belle ambition en tout cas. Du coup, j'imagine que le confinement a dû t'impacter potentiellement, comme tout le monde d'ailleurs, professionnellement dans le cadre de ton travail sur Software Heritage, puis dans le cadre de ton engagement associatif dans la communauté de Debian. Est-ce que tu peux peut-être, soit en commençant par l'un par l'autre, comme tu le sens, nous expliquer peut-être voilà comment ça a pu se passer cette période pour toi
Bah
et pour
alors,
les
je crois
projets?
que oui. Alors, je crois que comment dire, le changement principal, c'est bien sûr la distanciation physique et le fait que ce soit très compliqué de se rencontrer physiquement. Alors, c'est moins vrai sur Debian, qui est quand même un projet où les gens travaillent en ligne et donc on a l'habitude de travailler de manière désynchronisée et à distance. Plus effectivement pour mon travail au jour le jour sur Software Heritage, c'était assez bizarre du jour au lendemain de se retrouver isolé chez soi sans pouvoir discuter avec ton équipe à la pause café, tout ça. Donc c'était assez. On va dire que ça nous a mis la tête la première dans une modalité complètement remote. Et c'est quelque chose qui va continuer, je pense, au moins pendant quelques mois, puisqu'on n'a pas. Enfin, il y a assez peu de chances qu'on retrouve nos bureaux avant la fin de l'été, si ce n'est plus tard, quoi.
Du coup, oui, je te propose qu'on commence par Software Heritage, du coup, puisque tu abordes la question, enfin,
Ouais.
puisqu'on aborde là-dessus. Alors, du coup, oui, alors, le télétravail, c'est quelque chose, du coup, vous avez été amené à télétravailler. J'imagine que du fait de vos profils de travail, c'était techniquement pas trop compliqué, mais tu pourras me corriger. Et c'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude de faire, ou ça a été justement provoqué dans la situation?
Alors c'est quelque chose qu'on est habitué à faire à la marge, c'est-à-dire qu'on est actuellement en tout cas tous les membres de l'équipe travaillent sur le même site hein, et du coup on se retrouve au bureau tous les jours en temps normal. Mais là effectivement on s'est retrouvé à passer en distant par défaut, ce qui est je pense une. Enfin, c'est comment dire, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est assez clair que c'est important pour un projet comme le nôtre qui a une portée mondiale et qui fait un gros travail de collaboration de faire en sorte que nos échanges puissent être suivis même à l'extérieur. Tout notre travail, il est ouvert à l'extérieur et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on veut encore plus favorisé à l'avenir. On a commencé, par exemple, là, à travailler sur l'archivage d'une forge de logiciels qui s'appelle Bitbucket, qui a annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient fermer au mois de mars. Alors, ils ont repoussé avec la pandémie cette fermeture. Mais nous, on a travaillé avec la NLNet Foundation, qui est une fondation internationale pour le financement, et avec Octobus, qui est une entreprise française pour la réalisation du travail, à l'archivage de Bitbucket, de manière, du coup, en collaborant du coup avec une équipe extérieure, ce qui est une nouveauté pour nous, quoi.
Ok. Non, c'est important. tu as déjà évoqué, je pense que tout le monde n'a pas forcément en tête ce qu'est Software Heritage, et peut-être que ça pourrait éclairer un petit peu justement ces informations que tu nous donnes. Alors on avait reçu Roberto Di Cosmo, hein, qui a l'initiative du projet en février 2019, donc à nouveau on mettra l'émission, le lien vers l'émission, parce que c'est quand même un projet, enfin je pense qu'il faut quand même souligner à quel point il est démentiel et fondamental dans son principe. Voilà, est-ce que tu pourrais peut-être nous le vendre un petit peu, nous rappeler un peu ce que c'est dans les grandes lignes, et puis peut-être plus concrètement, donc on sait que le projet est porté au sein de l'INRIA, donc c'est vraiment un projet de recherche. Je sais pas combien de vous êtes maintenant à bosser dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner ces quelques éléments pour remettre dans le contexte?
Bien sûr, donc Software Heritage, oui, j'aurais certainement dû le mentionner au début, c'est la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel. Donc l'objectif du projet, c'est de construire une archive pérenne et intégrale de tout le code source des logiciels développés par l'humanité, que ce soit les logiciels qui sont développés aujourd'hui sous la forme de logiciels libres, ou des logiciels plus anciens que l'on souhaite archiver pour la postérité. Et donc en fait, notre projet, c'est effectivement une plateforme qui est impulsée par INRIA. Donc INRIA, c'est le laboratoire de recherche, le grand laboratoire de recherche publique en informatique en France. Mais ce projet, il a vocation internationale, il a vocation aussi à sortir de juste un projet de recherche et à être un projet qui est utilisé évidemment par la communauté de la recherche, mais aussi par l'industrie pour ses besoins, et puis par, enfin même en tant qu'objet d'héritage culturel de notre société, quoi.
Oui, et clairement en tant que libriste, enfin défendant l'éthique du logiciel libre, on voit immédiatement à quel point finalement se garder ces archivages pour finalement maintenir la connaissance accessible est extrêmement important. Et peut-être même on peut dire, enfin, cette période de pandémie où les outils de communication quand même ont joué un rôle fondamental, on voit peut-être là encore une fois l'importance d'avoir des outils de qualité dans la durée, sur lesquels peut-être on pourra reconstruire. Alors peut-être que je suis un peu utopiste dans la manière dont je le décris, mais il me semble que c'est un nouvel révélateur de l'importance d'avoir justement ce genre de bibliothèque.
Non, je pense que tu as tout à fait raison, et je pense que c'est pas utopique. On a effectivement, et cette situation de pandémie nous l'envoie en pleine face en fait. On a besoin de partage des connaissances de manière massive pour la collaboration de la société tout entière. Et pour faire ça, on a besoin de se préparer pour le futur et de construire des infrastructures qui soient transverses, pérennes, collaboratives, sur lesquelles les gens peuvent collaborer de manière ouverte. Et par exemple, nous, Software Heritage, là, on a pu avoir des retours de certaines personnes qui nous disent, on a retrouvé des logiciels qui étaient des objets de recherche il y a 5 ans, dont l'hébergement a disparu, mais qui aujourd'hui reprennent un intérêt nouveau. Et donc c'est le cœur de notre mission et de notre volonté, quoi.
Oui, donc il y a quand même eu un impact de cette pandémie, des enjeux qui ressortent pour faire héritage du coup. Alors toi, plus pour revenir peut-être un peu, comment ça s'est passé pour revenir un peu à cette idée du télétravail, parce que ça a un peu été une arlésienne de nos chroniques, un peu prise de nouvelles. Comment ça s'est passé pour toi donc le télétravail par rapport à, est-ce que c'est vraiment un truc que tu avais même à la marge l'habitude de faire, que tu apprécies ou au contraire que vraiment tu n'aimes pas, comment tu as pu mettre par rapport à ton travail sur ce projet?
Alors, le télétravail pour moi, c'était vraiment quelque chose de, enfin, que j'ai jamais fait entre guillemets sérieusement. C'est-à-dire que j'ai pas d'installation chez moi correcte pour faire le télétravail en temps normal, quoi. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir me déplacer chez ma compagne dans un espace plus grand dans lequel on a pu s'organiser pour avoir chacun des espaces pour travailler et puis sans s'embêter les uns les autres. J'ai récupéré du matériel de mon bureau et donc j'ai en fait reconfiguré mon bureau chez moi. Mais c'est enfin comment dire, si on passe à un mode plus pérenne de travail à distance, de télétravail, il est clair que toutes les comment dire, toutes les bonnes pratiques d'ergonomie, de séparation du privé et du travail, aujourd'hui, elles sont pas vraiment mises en place, et donc on est toujours sur du entre guillemets télétravail d'urgence et pas sur du pérenne, quoi.
Okay, effectivement, et donc pour la qualité du travail, j'imagine que ça peut avoir un impact. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur Software Heritage? N'hésite pas à faire de la pub, ou sinon on peut passer à l'autre sujet qui t'intéresse.
Ouais, j'ai une petite mention. Donc je parlais de notre collaboration avec l'équipe d'Octobus pour l'archivage de Bitbucket. On a d'autres bourses qui sont ouvertes grâce à la fondation Sloan. Et donc si des gens sont intéressés à collaborer avec nous pour améliorer la couverture de notre archive sur les codes sources de logiciels, il y a sur notre site web, sur notre blog softwareheritage.org, tout attaché, un appel à projet qui est ouvert du coup pour les gens qui seraient des développeurs et qui seraient intéressés à venir nous aider.
Ça marche, on ne manquera pas de relayer, puis je te redemanderai les liens qu'on pourra mettre sur la page consacrée à l'émission pour que les personnes les retrouvent facilement, ainsi que voilà, t'as cité Bitbucket, Zen Foundation, Octobus, on pourra mettre les liens là-dessus. Et en tout cas, le message est passé. Du coup, je te propose de parler de Debian, qui a en plus une actualité ce week-end, hein, les BiniDev conférences online. Donc c'était une nouveauté, il me semble, où j'ai peut-être mal lu, et que j'imagine que c'est en répercussion venant de la situation de pandémie et de distanciation.
Alors c'est on va dire que oui, donc c'était une première effectivement. Donc le projet Debian, c'est un projet qui vit sur Internet. C'est un projet qui est complètement distribué. Les gens sont aux quatre coins du monde et contribuent au projet. Et on a régulièrement des événements en présentiel, des DevConf, donc conférences Debian, et on a des mini DevConf qui sont des mini conférences Debian qui ont lieu sur un week-end à peu près, qui sont des événements de plus petite nature où les gens peuvent effectivement, donc développeurs, utilisatrices et tous les gens intéressés par Debian peuvent venir et voir ce qui se passe dans la distribution. Ça fait un peu plus d'un an qu'on discute d'améliorer la participation à distance à ces événements, parce que d'un point de vue écologique, par exemple, faire voler la moitié de la planète vers un site commun, ça a un impact très important. Peu importe le pays que tu choisisses pour héberger un événement, tu empêches des gens de s'y déplacer pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, etc., etc. Et donc, ça fait un bon moment qu'on se dit, ce serait intéressant de faire des événements un peu plus distribués, un peu moins physiques. Et là, effectivement, on a pris un peu cette, c'est le travail d'une équipe qui... J'ai juste participé à la marge à ça. On a pris un peu la balle au rebond de cette situation de pandémie mondiale pour organiser notre première mini DevConf online. Et donc, pendant le week-end, voilà, qui est passé, des développeurs, des développeuses se sont rassemblés et ont fait des présentations sur leur travail dans Debian et autour de Debian, avec des interactions en ligne à distance. Voilà. Et donc c'était une première, je pense que c'est un succès. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est des conférences qui étaient plutôt axées développeurs. C'est vrai que les mini DevConf, elles ont plus de discussions techniques en profondeur que la grosse conférence DevConf. C'est en anglais aussi, donc c'est pas forcément très accessible à tout le monde, mais c'est des formes d'interaction et de conférence qu'on est en train de développer, quoi.
Super, tu te devances une question d'un auditeur qui nous poser exactement ces questions-là. Est-ce que c'était, est-ce qu'il n'y aura pas une volonté d'inclure des conférences plus grandes publiques, vu les barrières techniques, enfin le niveau plutôt de connaissances techniques exigées et les barrières potentielles de la langue. Donc, écoute, tu devances du coup la question. Et toi, quel bilan en tires-tu? Est-ce que c'était du coup, enfin, c'était riche pour toi? D'une part, j'imagine qu'il y avait un peu d'enjeux techniques peut-être à mettre ça en place, et puis après, dans la qualité, est-ce que tu as sorti un impact? Est-ce que c'était finalement la même qualité que tu as pu retrouver, toi, dans des milliers de confs précédentes? Qu'en tires-tu, finalement?
Alors, c'est assez... d'un point de vue technique, c'était assez intéressant parce que l'équipe vidéo, du coup, s'est concentrée sur l'utilisation d'outils libres à 100%. Avec du déploiement à ma connaissance sur Debian. Du coup, c'était un bon test de, peut-être pas un test de stress, mais au moins un test d'intégration de tous les outils. Donc, il y avait de l'IRC pour la discussion en direct, il y avait du Jitsi pour la prise de parole des conférencières et conférenciers. Et effectivement, donc on avait un petit peu d'infrastructure à mettre en place. Ça s'est plutôt bien intégré à notre système habituel de diffusion en direct. Donc ça, c'était assez confortable. Après, effectivement, on va se retrouver à devoir faire la grande DevConf, donc celle qui dure une semaine complète, aussi à distance, a priori. La décision finale a été prise il me semble, cette semaine. Et du coup, là, on va avoir un vrai test, effectivement, des modalités d'interaction. Parce que toutes ces rencontres entre développeurs, ça a un gros impact sur la qualité de la collaboration entre ces gens qui sont tous distribués à droite à gauche sur la planète, parce que c'est des événements où tu peux avoir des conversations avec une bande passante très élevée de manière synchrone. Donc ça permet de résoudre tout un tas de problèmes que tu peux avoir si tu es à distance. Pour ça, effectivement, on a réussi à avoir une espèce de on appelle ça en anglais une hallway track, donc c'est un peu la série de conférences du couloir, donc où en gros c'est un salon de discussion libre où tu peux discuter de choses et d'autres. Ça remplace pas des interactions de vive voix, mais c'était quand même assez chouette de voir tous les une partie des copains et des copines en direct.
J'imagine, ouais. Alors du coup, tu parles de cette discussion informelle à distance. Est-ce que vous aviez anticipé, parce qu'il y a un enjeu, j'imagine, de modération potentiellement, pour que ça reste audible, pour que les personnes qui souhaitent s'exprimer puissent le faire, ce qui est déjà un enjeu en présentiel physique, parce qu'on sait qu'il y a des personnes pour qui la prise de parole est peut-être moins évidente, donc qui ont tendance à prendre plus de place. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé? Est-ce que vous avez essayé de laisser faire les choses naturellement? Et comment ça s'est passé, du coup, de ce point de vue?
Alors dans les on avait pour en tout cas pour ce qui est des conférences qui étaient planifiées, on avait une seule discussion de groupe. Du coup pour cette discussion là, en fait, on avait séparé les intervenantes et intervenants dans un chat Jitsi séparé avec un mot de passe. Ils se modéraient entre eux. On n'a pas fait spécifiquement de système pour améliorer l'équité dans la prise de parole. C'est quelque chose qu'on fait pas non plus en vrai, et c'est, je pense, un problème en vrai aussi. Mais on n'a pas encore travaillé sur des solutions pour ça, malheureusement.
Après, par itération, j'imagine qu'on améliore, c'est un peu aussi l'intérêt d'améliorer à chaque fois, quoi. D'être au moins vigilant sur les potentiels problèmes. Alors, on me pose une question sur le salon Libre à vous de Cause Commune. Les confs ont-elles été captées? Alors, j'imagine que oui, et seront-elles visionnables bientôt?
Alors, les conférences ont effectivement été enregistrées en direct. Je pense qu'il y a déjà une partie des conférences qui sont disponibles sur notre archive vidéo. J'ai vu des discussions parmi les gens de l'équipe vidéo sur la publication. Si c'est pas le cas, ça sera le cas, je pense, d'ici la fin de la semaine. Et ce sera aussi publié sur notre instance de PeerTube et sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui utilisent toujours ça.
La précision, voilà, tu qui est, alors j'aime pas forcément le terme d'alternative, mais donc un système, voilà, de partage de vidéos qui avait été mis en place, donc basé sur du logiciel libre, mis en place par Framasoft. Donc c'est bien, toujours bien aussi de s'appuyer sur ces outils, même si on sait qu'ils sont, ils ont pas la même la même portée, pardon. Il faut les faire vivre justement. Et, donc c'est un super projet. Ok, écoute, je vois que le temps avance. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aurais aimé dire sur Debian, MiniDevConf, sur un autre sujet qui tient à cœur et qui n'a pas été évoqué?
Sur Debian, là, pendant cette MiniDevConf, il y a une tendance qui se confirme, qui est que le projet a de plus en plus conscience de sa difficulté à recruter de nouvelles bonnes volontés et commence à travailler sérieusement pour améliorer l'intégration de nouvelles contributrices et de nouveaux contributeurs. Donc si vous avez envie de contribuer, quel que soit votre niveau de compétence, il faut surtout pas hésiter à vous rapprocher des associations locales. Il y a une association Debian France qui est active en France. On a prévu une mini-devconf au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que la situation sanitaire permettra qu'elle ait lieu dans les meilleures conditions. Et donc, je vous invite à vous rapprocher effectivement de Debian France si ça vous intéresse de contribuer. Voilà.
Le message est de nouveau passé. Et il me semble qu'en plus Debian, vous avez quand même historiquement une vraie vigilance sur créer des espaces accueillants, sécurisants pour toutes les types de, enfin pour toutes les personnes en fait, quelle que soit vraiment leur situation, voilà, pour les femmes notamment, pour les personnes, je sais pas, transgenres, pour les personnes racisées, enfin il me semble qu'il y a quand même une vigilance de ce point de vue, peut-être que je me trompe, mais
Non, tu as raison, c'est un travail de longue haleine, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a des améliorations visibles de mois en mois sur ce sujet.
Alors, dernière question, mais lors de métriques, et puis après, on te laissera retourner. Bon, je vais arrêter de bafouiller. Donc, c'est pas nous combien de confs et combien d'intervenants il y a eu ce week-end?
Alors, ce week-end, il y a eu une dizaine de conférences et une quinzaine d'intervenantes et d'intervenants en tout. Mon comptage des personnes qui ont visionné le stream, c'est autour de 230-250. Alors, c'est en nombre d'adresses IP uniques. Donc, voilà, ça, c'est une surestimation du nombre de personnes qui ont vu les conférences en direct.
Entendu, en direct, ça me paraît quand même assez honorable pour une première.
C'est assez impressionnant vu la communication limitée qui a été faite autour de la conférence. C'est une très bonne surprise.
Bon, parfait, vous le méritez. Écoute, Nicolas, un grand merci Nicolas d'Antimon, donc de Debian et de Software Heritage. Un grand merci d'avoir pris ce temps avec nous et je te souhaite une excellente fin de journée.
Merci beaucoup de m'avoir reçu et bonne émission.